Autre radio, autre culture, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Ahmed Gulbé, qui est pianiste de jazz. Bonjour Ahmed.
Bonjour Marion.
Ahmed, je te connais déjà depuis quelques années.
C'est vrai.
Je t'ai suivi dans des concerts, je t'ai vu même dans des festivals. Tu fais également de la composition de musique de film. On va parler de tout ça. Moi, ce que je voulais savoir, c'est quelle a été ta formation au tout début ?
Alors, au tout début, autodidacte. Hein. Autodidacte, il y avait un piano chez mes parents à l'âge de 14 ans, et un vieux piano droit Erard, désaccordé, et je me suis jeté dessus comme un fou, quoi. Alors, commencé à jouer des airs repris comme ça à l'oreille. Et par la suite, on m'a offert des partitions de classiques, comme moi, la flûte. Je jouais de la flûte à l'école, on faisait du solfège. Voilà, j'ai commencé à déchiffrer quelques mélodies simples. Et après, en fait, vers l'âge de 16-17 ans, comme je suis joueur d'échecs à mes heures perdues, j'ai débarqué dans un endroit qui s'appelait le Caveau de la Bolée, qui était à Saint-Michel. Et de là, j'ai connu les Trois Maillets, qui c'était le même patron qui tenait le Caveau de la Bolée et les Trois Maillets. Et c'était un club de jazz. Donc j'ai débarqué là, de l'âge de 17 ans, où j'ai rencontré tous les pianistes de jazz de Paris qui étaient là ce soir-là. Et j'ai joué deux morceaux que je connaissais comme ça, en fait. J'avais appris sur le tas. Je faisais des ragtime, des petits boogies très simples. Et comme j'avais l'envie de jouer, le patron me dit « Ah, bah, c'est sympa ce que tu fais, je cherche un pianiste pour les apéritifs. » Et j'ai commencé à l'âge de 17 ans, comme ça, à jouer de 6h30 à 9h30 dans cet endroit qui s'appelle Les Trois Maillets, qui existe d'ailleurs toujours.
Alors, complètement autodidacte.
Au début, oui. Ma sœur prenait des cours de piano, mais moi, comme je me débrouillais, mon père, il m'a dit « Bon, bah, toi, tu te débrouilles. Voilà, »
mais... Tu ne l'as pas regretté sur le moment ?
Bah, c'est sûr que quand on commence tôt, on prend les bons réflexes au niveau du toucher, puis la culture classique, parce que souvent, on commence... Mais bon, non, en même temps, oui et non, non. Finalement, je pense que quand on est autodidacte... On prend tout de suite ce qui nous intéresse en même temps. Parce que peut-être que je serais tombé sur un mauvais prof qui m'aurait peut-être dégoûté. Je sais pas. Finalement, je pense que c'est bien comme ça.
Quand on est autodidacte de cette manière-là, qu'on a des partitions, quel est le type de musique qu'on écoute ? Est-ce qu'on écoute ce dont on a la partition ou alors on cherche ailleurs ? Comment ça se passe ?
Quand on est autodidacte, ça dépend du milieu ambiant dans lequel on a grandi, l'éducation. Moi, chez mes parents, on n'écoutait que de la variété, soit française, soit c'était le folklore de la musique traditionnelle turque, parce que je suis franco-turc. Mais bon, avec mes frangines, on écoutait plus Jean Ferrat, Aznavour, Claude François, Queen. Donc j'ai grandi dans... Plus de la chanson, en fait. Plus de la chanson que de l'instrumental. C'est après que j'ai dérivé sur les Trois Maillets et quand au contact d'autres pianistes, je me suis dit « Ah tiens, bah, y a le jazz » et c'est là où ça a été une découverte. Mais je pense que quand on est curieux, après, on se dirige, je pense, forcément par quelque chose qu'on a en soi.
Et visiblement, tu es rentré très très vite dans le bain du jazz, à t'entendre parler.
Oui, oui, c'est vrai. Parce que ce que j'aime là-dedans, c'est qu'il y a de la liberté, en fait. Dans un cadre, on peut plus facilement trouver son identité que dans d'autres musiques. Parce que l'improvisation, justement, c'est ce qui permet à un musicien de raconter une histoire. Et ça, c'est très beau, quoi.
Alors du coup, à partir du moment où tu as commencé à jouer aux Trois Maillets, est-ce que tu t'es ouvert de plus en plus au jazz en cherchant un petit peu ce qu'était la culture jazz, que ce soit des années 50, 60, 70 comment ça s'est passé au niveau de ta culture personnelle ?
En fait, le fait de voir d'autres pianistes jouer, je me suis dit, tiens, on peut jouer le ragtime comme ça, on peut jouer aborder le boogie-boogie, on peut aborder les harmonies et tout ça. Et donc, allant vers là... Dans cette direction-là, je me suis dit, tiens, ben, je vais écouter ceux qui ont créé cette musique. Et donc, du coup, chaque pianiste me disait, mais oui, mais tu devrais écouter les disques de Fats Waller, tu devrais écouter les disques de Teddy Wilson, Nat King Cole, Armstrong, Bill Evans, Keith Jarrett. Et donc, chacun m'apportait ça, je notais. Et puis, bon, comme je pense que tout artiste est boulimique, enfin, doit être boulimique, je pense. On est comme une éponge, on absorbe tout ça et après, on... Et le style, faut pas le chercher. Hein. Le style, il vient à soi tout seul, en fait, finalement.
Oui, on va en parler un petit peu plus tard. Quand tu écoutes tous ces jazzmen, est-ce qu'il y en a un qui t'a le plus interpellé, je veux dire
Oui, oui. Parce que je pense que ce qui nous attire chez d'autres pianistes, on l'a déjà en soi. Enfin, je ne sais pas si c'est clair.
Si, si.
Parce que on a beau se balader comme un papillon sur tous les registres de la musique, hein, que ce soit le classique, le jazz, et il y a des... que ce soit comme un espèce de miroir, hein. Moi, j'ai été dans tel pianiste, que ce soit Ahmed Jamal ou Monty Alexander ou Oscar Peterson, en passant aussi par la musique blanche, parce que dans le jazz, il y a beaucoup... C'est la période noire du jazz et la période blanche.
Donc, qu'est-ce que tu appelles la période noire et la période blanche?
La période noire, c'est on connaît tous, dès qu'on parle de jazz, pour l'auditeur lambda qui ne connaît pas le jazz, il va tout de suite parler d'Armstrong, de Nat King Cole, de Fats Waller, de Duke Ellington, de Miles Davis. C'est vrai que le blues, le jazz, toute cette musique qui a grandi aux États-Unis, mais qui était finalement dans les bordels de l'époque, qui s'appelait Harlem. Quand on voit Billie Holiday, Carmen McRae, c'était tous des femmes. Parce que dans le jazz, il y a plein d'époques.
Et le jazz blanc? Qu'est-ce qui t'a inspiré dans le jazz blanc?
Il y a quand même dans le jazz noir, pour préciser vraiment, il y a l'aspect rythmique, vraiment. Comme disait Duke Ellington, "It don't mean nothing, that swing", ça veut dire, il voulait dire par là que si ça swing pas, ça sert à rien. Donc le côté peut-être plus archaïque ou plus animal ou plus trip venait de la musique noire. Les blancs ont apporté peut-être plus l'intellect avec les influences de la musique classique. On approfondira ça plus tard, mais ils ont permis aussi, comme un musicien qui s'appelait Benny Goodman, un musicien blanc qui jouait de la clarinette, aux noirs de rentrer dans les salons des blancs, parce qu'il y avait aussi le racisme hein, à l'époque.
Oui, tout à fait, oui.
Si t'étais noir, tu pouvais pas jouer. Si t'étais au café au lait, fallait attendre un peu. Et si t'étais blanc, donc il y a eu aussi ce passage. On l'entend de toute façon. Quand on dit blanc, c'est pas péjoratif. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup dans l'histoire du jazz, c'est comme ça. John Coltrane à Charlie Parker d'ailleurs.
Quel a été le sentiment de ta famille quand tu t'es mis justement à avoir des contrats en jazz, comme pianiste de jazz?
Mon père était couturier et en fait il voulait que je travaille avec lui dans la couture. Comme il y avait un piano à la maison, ça a été dommage pour lui. Donc j'ai tout de suite, et par chance, donc j'ai découvert ce club qui m'a amené à ça. Ils m'ont pas empêché et ils m'ont dit débrouille-toi. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Ils étaient assez fiers, je pense. Maintenant, c'était pas trop leur culture, le jazz. Et puis bon, c'est vrai que mon père aurait préféré que je fasse des études. Ma mère, ça la dérangeait pas plus que ça. Il y avait une fierté en même temps et c'était mitigé. J'ai un sentiment bizarre avec ça, ouais. Donc on est obligé de prouver des choses, on est obligé de prouver que ça marche. C'est un moteur en même temps, hein, d'être trop poussé, d'être peut-être pas assez poussé. Après il y a cette espèce de niaque en tout cas, que j'ai senti du côté de mon père, que lui avait dans son métier et que j'ai hérité. Et c'est vrai que cette espèce de... On retrouve ça beaucoup dans le jazz, où beaucoup de musiciens pendant des jam sessions, ou ce qu'on appelle le bœuf, ils viennent se défier un peu. Donc ça pousse, il y a un côté sport un peu pour s'affirmer dans cette musique-là, dans cette famille musicale. Il faut prouver qu'on peut jouer.
Comment tu travailles ta musique? Avant de parler un petit peu de la suite de ta formation, comment tu travaillais à cette époque-là ton piano?
J'absorbais beaucoup de répertoires. Déjà parce qu'il fallait tenir 2 heures, 3 heures quelquefois. Hein. Beaucoup de répertoire et puis varier les plaisirs. Alors, comme c'est en situation de piano solo, il faut tout exploiter, quoi. Il faut exploiter la balade, le ragtime, exprimer la musique, mais sous plein de formes différentes. Et donc là, ce que je faisais, j'épongeais pas mal les autres, et puis je photocopiais des partitions, j'enregistrais, donc beaucoup d'écoute. Je plagiais aussi souvent les autres, et c'est vrai que on est obligé de passer par ces chemins-là.
Il n'y a pas des musiciens, des pianistes que tu as entendus, ils avaient une manière particulière de jouer et tu te disais, tiens, ça me plaît bien,
ah oui,
je vais essayer de le faire.
Bien sûr, bien sûr. Bah, y a des styles qui sont très, comment je pourrais dire, spectaculaires au piano. Par exemple, ce qu'on appelle la musique stride de Fats Waller ou d'Art Tatum, c'est une main gauche qui va très vite et qui exploite une large partie des basses et des accords. On a à la fois la contrebasse et la guitare, une bonne pompe qui swing et en même temps une main droite qui peut... Donc ça m'a plu tout de suite, oui, parce que ça swingait et en même temps il y avait ce côté spectaculaire. Parce que je pense que je suis un pianiste, en live en tout cas, on m'a toujours dit ça, et je pense que j'ai le sens du public et le côté show, et donc cette musique-là me plaît. Et effectivement, il y a l'autre aspect aussi qui est très intéressant, les couleurs, les harmonies, les climats. Donc ce mélange-là, maintenant que j'ai 44 ans, je commence quelquefois à l'approcher. Et puis bon, bah voilà, hein, j'ai baigné dans ce... Je crois qu'il n'y avait pas de hasard. Je suis tombé dans ce milieu ambiant qui était jazz. Quelquefois, je me dis peut-être que si j'étais tombé dans un milieu ambiant rock, peut-être que j'aurais fait du rock. Mais après, l'idée, c'est d'être musicien. C'est ça qui est super. Sans faire d'étiquette jazz, classique, rock.
Pourtant, tu aurais été attiré par des carrières comme des pianistes, comme William Scheller ?
Il est plus chanteur quand même, William Scheller.
Oui.
C'est plus un auteur hein, qu'un...
Mais il joue du piano quand même. Il
est, oui, c'est
comme
vrai.
Comme Michel Berger, par exemple.
C'est vrai. Pourquoi pas, c'est vrai. Mais moi, je ne suis pas auteur déjà. Et puis, le truc, c'est que quand on est pianiste-chanteur, soit on joue très bien du piano et on chante très mal. Et l'inverse est aussi vrai. Parce qu'il faut jouer assez simple quand même. Quand on chante, parce que mettre plus de place pour le chant. Nat King Cole faisait très bien aussi ça. C'est une expérience, ça peut être une expérience un jour de chanter et puis d'écrire des textes et de m'accompagner. Gainsbourg l'a fait, il était pianiste de bar au début, il a écrit...
Oui, et Aznavour également.
Oui, bien sûr.
Mm-mm. Alors, il y a quelqu'un qui t'a attiré, et qui a dû sérieusement te troubler, puisque tu as étudié à la Bill Evans Piano Academy.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Alors, pourquoi être entré dans cette école ? Est-ce que c'était par cet amour de Bill Evans, à la recherche un petit peu de ce qu'il sentait, ce qu'il ressentait en jouant du piano ? Qu'est-ce qui t'a attiré plus particulièrement ?
En fait, c'est un petit peu le hasard, parce que la première fois que j'ai débarqué au Trois Maillets, donc quand j'avais 17 ans, le premier pianiste que j'ai entendu, c'était M. Bernard Maury, qui est décédé maintenant, et qui était le pianiste attitré de cet endroit qui s'appelait les Trois Maillets. Et qui était l'ami de Bill Evans. Et donc, quand il m'a vu jouer la première fois, il m'a dit, ah bah, t'avais vraiment envie de jouer. On sentait que, voilà. Mais après, donc, comme il avait un peu toute cette culture de l'harmonie classique, de Bussy, Ravel, Bill Evans, et tout ça, il avait commencé à monter, ouvrir cette école, et il m'a dit, écoute, ce serait super que tu puisses en profiter, et puis découvrir tout un autre univers. Donc, comme je l'aimais beaucoup, il a eu été un peu un père spirituel pour moi, un peu de coach aussi, en plus d'être un ami, quoi. Donc, c'est vrai qu'il m'a fait découvrir tout ce monde des harmonies, des renversements, des conduites de voix, et de pas faire en sorte que le piano ne soit que des blocs et qu'on puisse plus se jouer comme un peintre, finalement, sur des couleurs et des côtés impressionnistes de la musique. C'est vrai qu'on peut jouer le même morceau en le réharmonisant de façon totalement différente. On ne s'ennuie jamais finalement, quoi. Donc, ce qui prouve que quand on a une personnalité harmonique, comme avait Bill Evans, qui avait lui, en fait, marié les deux grandes musiques, le classique et le jazz, c'est le pianiste blanc donc, qui a fait la charnière avec tout ce côté réflexion et peut-être voir le rythme autrement. Et c'est vrai que je conseille à tous les pianistes et tous les musiciens. D'ailleurs, beaucoup de musiciens classiques s'intéressent à la musique de Bill Evans. J'ai eu la chance de rencontrer Arkady Volodos, qui adore la musique de Bill Evans.
Il t'a apporté donc quelque chose dans ton jeu, là, actuellement. Est-ce que tu t'inspires ou il y a des moments où tu es en parfaite communion avec ce qu'il a fait et tu ressens ce qu'il avait joué et toi t'es dans le même trip, je dirais.
Oui, c'est vrai. Parce qu'au début, en fait, on quand j'ai commencé, hein, j'étais très attiré par toute la musique de Fats Waller, Art Tatum, tout ça, tout ce côté où la main gauche très présente et tout. Et avec l'âge, je reviens justement à ramasser et d'être plus dans la couleur, d'être moins pianiste finalement.
Tu peux dire ça ?
Ouais. Parce que finalement, le piano n'est qu'un un lien pour la, vers la musique, finalement. On a la chance avec cet instrument qui a été gâté. Je pense que c'est l'instrument chouchou des compositeurs. Hein. Quand on voit l'œuvre de Chopin, et j'en passe, Rachmaninoff... c'est un chemin vers la musique. Donc il faut tout suggérer. On peut tout suggérer avec un piano. On peut suggérer un orchestre symphonique, on peut suggérer un big band, on peut suggérer la harpe, on peut suggérer plein de choses, des ambiances, des climats. Mais je crois qu'il y a un truc de maturité. On joue moins pour se faire de l'effet à soi-même, mais on est plus responsable de la musique qu'on fait. Et il y a un contrôle des sons, finalement, un contrôle des sons. Et on reconnaît à ça un musicien, vraiment, finalement. Un musicien, c'est quelqu'un qui sait aussi contrôler ce qu'il joue. C'est pas gratuit, c'est pas paf.
Est-ce qu'on peut dire que lorsqu'on s'est inspiré de ces musiciens, est-ce qu'on arrive à avoir sa propre signature au niveau du jeu de piano? Est-ce qu'on peut dire, ah oui, ça c'est du Ahmed Gulbe?
Oui, mais il faut 20 ans. Il faut 20 ans avant d'avoir un son et un style, quoi. Parce qu'il faut finalement faire tout ce parcours, je pense, comme le petit Pousset qui va faire son voyage initiatique dans la musique. Le style, ce qu'on a aimé au départ, finalement, on le retrouve à la fin, mais avec tout ce background, justement, toutes ces études et tous ces moments de découverte, d'échange avec les autres musiciens. Et je crois que le style, fondamentalement, il ne faut pas le chercher. Il vient à soi. Moi, ce que j'aimais au départ, quand j'ai commencé cette musique, aujourd'hui, on revient à ses premiers amours, toujours. Mais en complétant, finalement. Moi, j'ai toujours aimé, justement, le mélange des deux. Le jazz fait pour la passion et la joie et la danse. Et en même temps, cette espèce de réflexion, de couleur... Puis il y a aussi sa nature profonde. Il y a le squelette de chacun. Il y en a qui ont des plus grandes mains, donc ils vont se diriger presque spontanément vers tel genre de musique. Voilà. Mais le son, il faut 20 ans. On ne peut pas aller vite.
Est-ce que tu es conscient de cette évolution d'Ahmed Gulbe?
Oui, oui.
C'est-à-dire, est-ce que tu serais capable de dire, bah, tiens, je vais faire du Ahmed Gulbe des années début 90, et puis...
Oui, parce que le matériel, finalement, tout ce qu'on enregistre, moi j'ai enregistré beaucoup avec Philippe, finalement, le fait de faire un CD, c'est quelque chose qu'on accouche, et en même temps, une façon de jouer qu'on quitte. Donc on va vers forcément du nouveau. On optimise ce qu'on connaît et on va vers du nouveau à chaque fois. Donc chaque album est presque un deuil de autre chose. En faire, oui, de temps en temps, je sens, j'ai un frisson de me dire, tiens, ah, là, c'est sûr que... Puis il y a des constantes par rapport... Moi, j'ai des cassettes que je retrouve. Tout ça, c'est du matériel, d'ailleurs. Je vois comment je joue en 80. Après, hop, 85, 90. Il y a des tics. Il y a des constantes, des trucs qui reviennent. Et finalement, c'est ça, notre style, finalement. Mmh. Et puis, c'est aussi s'approprier de ce qu'on a aimé. Mmh. Personne n'a la prétention de partir de rien. Donc, sinon, c'est un génie.
Alors, on va parler de l'improvisation, là, actuellement, tout de suite. Je rencontre plusieurs musiciens. Il y a certains qui me disent, oui, improvisation en jazz, peut-être. Mais moi, mon improvisation, elle est travaillée avant. Mmh. Avant les concerts. Mmh. C'est-à-dire que tout est répété, tout est fait pour que tout... soit parfait. Et puis il y en a d'autres qui disent non, c'est suivant l'air du temps, suivant ma façon de voir la salle, face au public, je peux jouer des choses totalement différentes d'une soirée à l'autre. Comment on aborde l'improvisation quand on est déjà un pianiste tout jeune, tel que tu étais quand tu as commencé ta carrière?
Bah, moi je pense que l'improvisation, c'est à un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Hein. C'est, voilà, c'est comme aller nager, quoi. Je pense qu'on a tous envie d'improviser. Et, il y a beaucoup de choses dans l'improvisation. Dans improviser, moi j'entends le mot vise déjà. Improvise. Donc c'est une idée. C'est développer ses idées. Et aller au bout de ses idées. Et dans l'improvisation, il y a plusieurs manières d'aborder ça. Par exemple, l'improvisation, ça peut être de l'inspiration aussi. Inspirer le moment dans lequel on est. C'est-à-dire que, voilà, à un moment donné, si hier je me suis engueulé avec ma petite amie, que j'ai le blues, ça va être aussi des choses qu'on l'envie. Et c'est ça le problème de beaucoup de musiciens, c'est de travailler leur cartouche, je dirais travailler le piano juste avant pour avoir quelque chose dans les doigts, mais finalement le processus de l'improvisation de la musique, c'est pas forcément la musique qui le nourrit. Je vais donner un exemple, si je joue comme un singe savant 8 heures par jour, parce que j'ai un concert dans 3 mois ou dans un mois, oui, bien sûr, j'aurai quelque chose dans les doigts. Mais si je vais voir une exposition de peinture, si je lis de la philosophie, si je vis des trucs qui sont très forts, j'aurai peut-être plus les poils et le frisson et quelque chose à dire qu'avoir travaillé comme un robot. Et ce que je vais raconter le travail de mes gammes en concert.
Ouais.
Donc je pense qu'il y a beaucoup de musiciens qui font un peu ce... C'est pas la musique qui engendre forcément toujours, en tout cas, la musique. Il faut s'ouvrir à autre chose aussi. Toutes les formes d'art, quand on revient au sien, on est encore plus nourri.
Alors, comment tu fais quand... Parce que je sais que tu joues en trio, en quartet, en quintette. Justement, comment tu fais lors des improvisations, suivant ton état d'esprit, comment tu arrives à être en symbiose avec les autres musiciens?
Alors après, ça c'est la forme un peu, pas l'approche par rapport à l'instrument, mais par rapport, par exemple, si je prends une grille dans l'improvisation, je vais avoir soit un 32 mesures, il y a une structure. Hein. Ce qui est intéressant, c'est le début et la fin pour moi. Le reste, ça reste de la musique. C'est-à-dire que je vais mettre des couleurs que j'aime bien à tel endroit. J'ai comme un spectre déjà de là où je veux aller. C'est-à-dire que comme quelqu'un qui descendrait une piste de ski, dans sa tête, il a déjà fait son parcours presque. C'est une anticipation.
Là, tu me fais penser à Manoukian quand il parle. Il parle toujours des skieurs.
Ah bon ? Ah oui, d'accord. Mais oui, non, mais je crois qu'on a une partition à l'intérieur musicale presque virtuelle. Parce que moi, je pense vraiment développer mes idées. Je vais commencer un solo et commencer sur une note, deux notes, trois notes, égrinées comme ça. Et puis, il faut que le solo fasse, il soit crescendo. Ou alors, ça peut être l'inverse. Je peux commencer très fort et descendre. Et c'est comme un discours aussi. C'est-à-dire qu'il faut des silences. La musique, c'est aussi... C'est un peu comme une façon de s'exprimer. Hein.
Oui, mais comment vous arrivez, toi et les autres musiciens, à être en symbiose, justement? Parce que vous vous connaissez et que vous ressentez vos émotions les uns aux autres, comment ça se passe?
Bien sûr, il y a ça, mais il y a aussi la partition, c'est-à-dire sur un standard. Hein, je prends un standard, que ce soit les feuilles mortes ou, je ne sais pas moi, Body and Soul ou All the Things You Are. Le morceau va faire tant de mesures, donc on sait qu'il y a un A, un B, donc ça c'est la forme. Mm-hmm. Il y a une tonalité, il y a un tempo, donc déjà tout ça, ça nous cadre. Donc on est déjà dans un cadre. Après, il y a la répartition des solos, mais en fait, on se regarde. Souvent, il y a ce côté visuel, tac, on se fait un clin d'œil, prend le premier solo, je prends le deuxième solo, on se fait des échanges, des 4-4. C'est comme une conversation à 3 ou 4. Et il faut être attentif, parce que ce qui est super, bon, c'est Boris Vian qui disait ça, hein, mais le jazz, c'est comme les bananes, c'est bon à consommer sur place. On en perd beaucoup sur un CD, parce qu'on ne voit pas justement la complicité qu'il y a entre les musiciens. Et ça, c'est formidable.
Oui, tout à fait. Alors, en revanche, tu avais fait un DVD avec pas mal de stars du jazz.
Oui, c'est vrai.
Dont Jean-Loup Lognon.
Oui.
Alors, je parle de Jean-Loup Lognon parce que, ouais, justement, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé en classique et en contemporain.
Ouais.
Il a beaucoup travaillé. C'est un fan de Henri Dutilleux.
Bien sûr. Ouais.
Lui aime beaucoup préparer avant pour que tout soit à la perfection. Mm-hmm. Alors, comment tu arrives à travailler avec quelqu'un comme Jean-Loup Lognon?
Alors, c'est très intéressant. Jean-Loup, il a une... Il y a le Jean-Loup Lognon en club, en live, qui est un showman formidable et un très très bon technicien en plus. Et puis il y a le Jean-Loup Lognon qui est en studio et qui fait les choses complètement à revers de ce qu'il est. Donc cette collaboration, ou cette amitié, ou cette adoration qu'il a pour Dutilleux, on le retrouve dans ses CD. Hein, souvent, il veut tout contrôler du coup. Et moi, je trouve que quelque part, des fois, ça manque peut-être un peu de spontanéité. Parce que c'est très très beau, hein, c'est très bien écrit. Et puis bon, après, c'est différent. Lui, il est trompettiste, moi je suis pianiste. Hein, c'est
ouais,
aussi,
et lui, il a un grand orchestre aussi.
Il travaille, oui, voilà, il est en big band. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas arriver 3-4. Et c'est une situation totalement différente. Donc oui, Mais il n'empêche quand même, voilà, il n'empêche que moi, pour moi, le jazz, il doit rester même dans tout ça, toujours une part de spontanéité où justement il y a un truc, un espace de liberté, voilà, tout simplement. Moi, quand je regarde une partition, que ce soit classique ou jazz, je cherche la respiration, justement. Où peut-on mettre un espace de liberté, où est-ce que ça respire? Ça m'arrive de temps en temps de jouer du classique et de pouvoir l'adapter aussi à ma manière. Comme font les pianistes classiques, ils écrivent leur cadence. Et je me dis, tiens, ben là, je mettrais bien un espace de liberté. Ça peut être une pédale, ça peut être un rubato. Parce que pour moi, le jazz, c'est lié à ça quand même. Hein. Il faut que ça soit spontané. Si tout est écrit...
Alors, je t'ai vu, moi, plusieurs fois. Je t'ai vu en concert, dont à Toulon. Je t'ai vu également au studio en train d'enregistrer. Je t'ai vu dans d'autres salles. J'ai quand même été impressionnée parfois par la différence de jeu auquel j'ai assisté. Mmh. C'est-à-dire qu'ici, je t'ai vu dans un côté très romantique, avec un piano excessivement léger, comme des gouttes d'eau. Mais ça allait comme des gouttes d'eau. C'était quelque chose de fabuleux. On avait l'impression de se retrouver dans d'autres sphères. Et quelque chose de beaucoup plus fort et plus violent, par exemple à Toulon. Tu martelais tes idées un peu, je dirais.
Oui, mais c'est normal en même temps, parce qu'il y a une situation où on est dans un studio, où on se recueille, on joue pour l'ingénieur du son, les micros. Il n'y a pas cet échange avec le public. Ouais. Et donc, en fonction aussi, c'est vrai que ce jour-là, il y avait le saxophoniste et le trompettiste qui avaient quand même bien envoyé juste avant. Il y avait eu des solos très très hauts, très très forts. On a envie de donner aussi au public. Ouais. Il y a une énergie, en tout cas. Après, bon, les idées peuvent être moins intéressantes. Souvent, quand on se réécoute, d'ailleurs, on est souvent... ça pardonne pas. Hein. Mais oui, il y a cette énergie qu'on donne au public. Et puis, on est aussi stimulé par la contrebasse, le batteur, le sax. Donc, c'est en fonction de chaque... Mais ça peut arriver aussi, à un moment donné, où tout... En public, d'entendre aussi... J'aime bien les deux. Hein.
Qu'est-ce que tu aimes comme type de salle, en règle générale, pour tes concerts ?
Alors, j'aime bien jouer partout, moi. Bon, il y a quand même un truc que je préfère, c'est les petites salles, quand même. Pour le jazz, je trouve ça super quand le public est bien autour, et ce côté intimiste. Les grandes salles qu'on retrouve là, maintenant, sur les grands festivals de jazz, c'est bien, mais c'est pour... On peut pas faire des concerts de rock comme on fait des concerts de jazz, quoi. Mm-hmm. Pour moi, le jazz, ça reste une conversation, quoi.
Alors, imagine que je suis Dieu. Voilà, je te propose, on fait un deal. Mm-hmm. Tu formes un quintet et tu prends quatre musiciens où tu rêves de jouer avec eux. Qu'ils soient morts ou vivants, lesquels prends-tu ? Je m'arrange hein, pour les faire venir.
Ouais, ouais. C'est déclaré.
Alors ?
Bah là, je sais pas si Django Reinhardt est libre ou Charlie Parker déjà, ça c'est sûr. Et puis c'est vrai que les chanteuses que je citais tout à l'heure, Billie Holiday ou La Callas et Oum Kalsoum, j'adore. Je ferais bien un quintet un peu bizarre comme ça avec trois voix et une guitare et mais que des gens qui me racontent des histoires. Parce que tout à l'heure on parlait de l'improvisation et dans une improvisation, hein, je fais juste un crochet. Il n'y a pas que des notes. Hein.
Ben non.
On raconte une histoire. Et finalement, si l'histoire du saxophoniste nous plaît, on en veut encore. Et je crois que c'est ça. Et il y a un solo, généralement, dans les solos des grands musiciens. Charlie Parker, il ne fait pas plusieurs grilles. Il y a une cohérence entre le début de son discours et la fin. Après, on peut le voir avec des notes, de l'improvisation... La prise de risque.
Ça t'arrive de jouer, par exemple, un même morceau de manière totalement différente d'un concert à un autre ?
Ah oui, bien sûr. Parce que justement, c'est une fois qu'on maîtrise l'harmonie et qu'on maîtrise les... Puis les musiciens avec lesquels on joue sont tout à fait différents. Donc il y en a un qui va faire rebondir une idée différemment, on va être plus à l'aise ou il va nous surprendre. Et cette prise de risque, elle est là. Et c'est pour ça qu'on se lasse jamais de jouer ces standards, finalement. Hein. Jamais.
Parce qu'en fait, quand vous jouez un morceau, sur le moment, bon, vous avez votre grille, mais tu ne sais pas ce que va faire l'autre, finalement.
Ah non, puisqu'il peut casser l'harmonie, il peut rajouter des notes, il faut être très très à l'écoute. Il faut être d'ailleurs plus attentif, parce qu'il y a des gens qui ont l'oreille absolue et qui se disent, bon, moi j'entends tout, de toute façon, je trace. Mais si on est attentif, c'est mieux. On peut anticiper. Des fois, on peut proposer des idées aussi. C'est ça qui est super. Il y a un truc très, très vivant.
Donc, ça demande une concentration terrible, non?
Oui, et puis une relaxation. On n'est pas comme les musiciens classiques. Hein. Moi, j'en ai fait l'expérience. On m'a mis, l'été dernier d'ailleurs, au pied du mur. Elle a dit, tiens, bah, tu vas faire un récital de classique sur 6-7 morceaux. Et j'ai pris ça comme un défi, je l'ai fait. Mais j'étais très, très raide. Ouais. Parce que quand on doit réciter quelque chose, c'est pas pareil. Dans le jazz, il y a des contractions quand même. Parce qu'on peut respirer, on peut ne pas jouer. Et puis, on est libre. Donc, si j'ai envie de faire un solo beaucoup plus volubile, voilà. Je peux aussi juste mettre des accords. Et là, je me suis rendu compte, justement, des grands concertistes comme Rubinstein ou Martha Argerich ou Richter. Là, on voit c'est des sacrifices hein, de vie, hein, ces gens-là, souvent. Il y a un travail énorme de son, déjà, aussi. Parce que le son n'est pas pareil chez les jazzmen que chez les classiques, quand même.
Oui, tout à fait. Oui.
Il y en a un, pour moi, qui arrive, c'est Keith Jarrett, qui a un son magnifique. Et c'est vrai que les autres musiciens de jazz, la qualité du sonore n'est pas pareille, souvent. Peut-être plus sale, des fois, mais c'est presque voulu, aussi. Hein. Il y a un côté plus voyou dans l'attaque de la note, ou...
Vu tes origines turques, ça t'a jamais intéressé de faire un jazz un peu orientalisant ?
Si, justement, j'y pense de plus en plus. Parce que c'est vrai que finalement, même si j'ai mon style un petit peu qui commence à se dessiner, je me démarque pas trop des autres finalement. Même si j'ai mes constantes après toutes ces années. Mais je veux pas tomber non plus dans le côté cliché de l'histoire, parce que voilà, je suis... comme les Cubains font d'ailleurs. Je suis cubain, je vais jouer de la musique cubaine. Il est américain, il va jouer du jazz. L'autre, voilà. Je veux le ressentir vraiment. Et je pense que ça va être la rencontre avec un musicien turc qui va me dire, tiens, moi je fais beaucoup confiance aux rencontres. J'ai jamais été dans des parcours de me dire, tiens, je vais me faire un plan de carrière. Mais je le ressens de plus en plus. Je me dis que ce sera une manière de me démarquer plus. Mais comme je ne la connais pas, cette musique...
Pourtant, tu m'as dit que tu avais, quand tu étais jeune, vous écoutiez beaucoup de musique turque traditionnelle, finalement, chez toi.
Oui, mais c'était du chant. Et comme moi, je suis instrumentiste, j'en ai écouté, hein, mais je n'ai pas encore trouvé la combinaison idéale. Il faudrait que je rencontre des musiciens qui jouent de la derbouka ou de la flûte ney. Mais j'ai une idée quand même un jour d'accoucher d'un projet comme ça. Et je pense que j'aurai plus à me démarquer finalement. Parce que sinon, je reste dans le... On joue finalement un peu trop de standards, finalement. Même dans les musiciens français, moi j'en écoute beaucoup. On fait souvent des hommages à Charlie Parker, hommage à Oscar Peterson, hommage... voilà, je crois que après, le se démarquer et être vraiment soi à travers la musique qu'on fait, on peut profiter de ses origines.
Oui, parce que on pense très souvent, quand tu es baigné là-dedans, quand tu es petit, il y a des percussions très particulières, des sens de rythme très particuliers. Et je me demandais si ça avait pas, si tu n'étais pas imprégné et par moments ça ressortait pas dans ta musique. Non.
Si, au niveau de l'approche du rythme, oui. L'approche du rythme et l'approche de la danse, en fait. Parce que c'est lié, hein, quand même, hein, le rythme, la danse. Puis c'est vrai qu'il y a quand même des morceaux dans l'histoire du jazz, comme Caravan de Duke Ellington, où c'est un peu arabisant de temps en temps. Et puis dans la musique manouche aussi, on a fait un disque avec Rodolphe Raffaelli, où il y avait cette combinaison un peu gypsy, zigane, manouche, avec le violon. Je trouve que finalement, dans tous les CD que j'ai fait jusqu'à maintenant, celui-là est très original finalement. Et donc ça aurait pu être comme une espèce de pont pour aller justement faire un truc plus traditionnel et mélanger avec ma culture turque et le jazz d'aujourd'hui. Mais ça, c'est un projet. C'est pour ça qu'il faut que je fasse des rencontres. Il faut que j'aille dans cette direction.
Est-ce que tu joues de temps en temps en Turquie ?
J'ai joué pas mal. Hein. J'ai joué pas mal. J'ai joué à Antalya, j'ai joué à Istanbul, à Izmir, à Kuşadasi. Mais j'ai pas de contact en fait direct. Le jazz en Turquie, en fait, c'est pas une musique qui est très très connue. Hein. Mais ils sont curieux, comme au Maroc. Tout ce qui est live, de toute façon, c'est comme en France. Hein. Quand on va dans un festival, il y a la fête partout. Donc les gens, ils disent, tiens, il y a un orchestre de jazz, youpi. Alors que dans beaucoup de villes, partout, les clubs ferment un à un, sans parler Saint-Germain, hein, sans jouer les
Oui, parce que tu es quand même un grand pianiste de jazz du 6e arrondissement, du Paris Jazz.
Comme on dit, un germano-pratin.
Un germano-pratin, exactement.
Oui, tous les clubs de jazz qu'il y avait, ne serait-ce qu'à Saint-Germain, il y en avait 6-7 aujourd'hui, il n'y a plus rien. Hein.
C'est ce que je disais à l'organisateur de jazz de Toulon. Ouais. Je lui ai dit, écoutez, c'était extraordinaire, j'arrive à Toulon pour voir le festival de jazz et sur qui je tombe, Ahmed Kumbé.
Ah bah oui, il n'y a pas de hasard. Hein.
Je lui ai dit qu'il est quand même le pianiste de jazz du 6e...
Bah oui, moi j'ai grandi là en fait, même avant d'y habiter, j'ai grandi là. Et c'est vrai que quand je venais, il y avait le Montana, le Village, le Bill Bocquer, enfin tous les clubs qui étaient dans le... Et l'époque d'aujourd'hui, je crois que c'est même pas la conjoncture, c'est l'époque qui veut ça finalement, la vie de nuit, le club de jazz, on a perdu un peu cette poésie, dommage.
Il y a une chose que je regrette, par exemple, il y a eu le festival de jazz de Saint-Germain, là, dernièrement. Et c'est très curieux, parce qu'on habite le 6e arrondissement, et puis finalement, il n'y a rien dans le quartier qui montre qu'il y a un festival de jazz. Lorsqu'on voit dans toutes les villes, que ce soit Toulon ou ailleurs, il y a des concerts un peu partout et autres. Ici, on voit rien. Et je regrette justement qu'il n'y ait pas cette signature au moment du festival de jazz, qu'on ne retrouve pas, par exemple, il pourrait faire un concert Place Saint-Sulpice, gratuit pour tout le monde.
Ouais. Mais je crois qu'il y en a eu quand même, devant l'église, il y avait quand même... quelques orchestres de rue, mais qui sont pas... Je pense que le problème, c'est que finalement, aujourd'hui, beaucoup d'organisateurs, en tout cas sur Paris, quand il y a des manifestations comme ça, veulent faire de la billetterie, donc ils prennent des têtes d'affiches, et finalement, c'est plus des concerts qu'un festival, finalement.
Oui, c'est ça.
Ça tourne plus à ça qu'à l'inverse. Donc, ce qui manque, c'est après les rencontres avec les uns les autres, des bœufs, ça manque après...
Ça manque de vie. En fait,
oui, tout simplement. Oui.
Ça manque de cette chaleur qu'a le jazz et qu'on ne ressent pas justement pendant le festival.
Oui.
Et je sais même pas où se passent les concerts.
Il y en a dans l'église Saint-Germain, il y en a à l'auditorium. Après, il y en a un petit peu dans tous les restaurants qui font la rue Saint-Benoît et tout ça. Mais c'est vrai que moi, je trouve pas dans le festival le côté fête, justement, ce que je disais tout à l'heure.
Ça, c'est peut-être une des critiques qu'on ferait.
Ouais, c'est devenu des concerts payants dans le cadre d'une manifestation, et je mettrais le mot festival entre guillemets. Mais d'ailleurs, c'est valable aussi dans le cinéma, hein, le festival de Cannes, on l'a vu cette année, on sent que c'est vraiment formaté, il y a moins d'impro, il y a moins de... C'est presque trop lisse, trop préparé. Et ce qui enlève finalement, en plus en plein dans Saint-Germain, le côté de la poésie de cette musique, c'est les bœufs tardifs, les rencontres, le public qui est surpris. Voilà, il faut une âme. À l'époque, je pense les gars comme Boris Vian ou comme Juliette Gréco, enfin, sans jouer les anciens. Mais cette poésie s'est perdue. Maintenant, c'est voilà, tac, billetterie, concert d'un tel, super. L'artiste a fait son concert, il s'en va. Il n'y a pas de rencontre avec d'autres musiciens. Moi, j'ai été dans le cadre des clubs où je jouais dans la Saint-Germain-des-Prés. Ça manque de fêtes.
On va passer une deuxième partie de ta vie qui est en parallèle aussi avec ta vie de musicien de jazz. C'est la composition pour les musiques de films. Alors, tu parlais justement du Festival de Cannes, je t'en remercie. Tu as donc fait plusieurs musiques de films. Comment est venue cette nouvelle aventure ?
Là, c'est pareil, c'est les rencontres, en fait. C'est curieux, non ? Dans mon parcours, c'est... La première musique de court-métrage que j'ai fait, c'était pour un ami d'enfance. On habitait tous les deux 17 rue Bleue, qui s'appelle Chad Chenouga, qui est réalisateur aujourd'hui. Et c'est lui qui m'a le premier mis le pied à l'étrier. Et lui, il adorait le jazz, donc... Après, il y a plusieurs façons de composer hein, pour la musique de film. Hein. Il y a l'orchestration, comme fait Michel Legrand, ou Lalo Schifrin, ou tous ces... grand compositeur. Et puis après, il y a le climat ou une mélodie. Donc en fait, chaque réalisateur a déjà une idée derrière la tête et on l'aide à la coucher. Parce que généralement, beaucoup de réalisateurs ne sont pas musiciens, mais ils savent ce qu'ils veulent. Et après, le musicien ou le compositeur peut l'amener à ou lui faire des propositions, mais... Généralement, le réalisateur, il sait toujours ce qu'il veut. C'est lui le dieu vivant, quand même, de son œuvre. Hein.
Est-ce que c'est facile de composer, justement, quand on est obligé de suivre des directives de réalisateur ?
Bah, si on travaille sur l'image et on veut vraiment souligner chaque passage de ça, oui, là c'est un boulot de précision, il faut trouver le timbre exact. Quand je dis timbre, c'est la couleur, hein. Ça peut être de la flûte qui va nous rappeler l'enfance par exemple, parce que souvent, ou alors des climats. Souvent la musique de film, finalement, c'est beaucoup des climats aussi, hein. Il n'y a pas forcément de la mélodie. Par exemple, un exemple bien flagrant. Michel Legrand est vraiment un mélodiste, parce que ses mélodies sont très redondantes et on les retient très facilement, un peu entre guillemets comme des tubes. Hein. Et alors que d'autres réalisateurs font plus des climats, ça va être des notes tenues ou vraiment des atmosphères. D'ailleurs, Michel Legrand avait mis dans une comédie musicale, il avait mis une mélodie pour chaque personnage. Et on pouvait, rien qu'à la musique, savoir que tel personnage, quand il rentrait, en fonction de l'humeur, sa mélodie devenait majeure ou mineure. Voilà. Après, il y a des techniques, hein. Mais bon, moi, dans mon parcours, c'est vrai que le pied à l'étrier, ça a été Chattanooga. Ensuite, j'ai aussi participé à un film qui s'appelait Tom et Toussaint de Fabien Antoniente, qui avait fait camping l'année dernière. Et puis ensuite, il y a eu Le Petit Lieutenant, qui s'est déroulé donc dans un club de jazz qui s'appelait Chez Papa, qui s'appelle d'ailleurs toujours. Voilà. Et ensuite, il y a eu Dialogue avec mon jardinier, avec Jean Becker, et prochainement donc avec Claude Lelouch, sur une comédie musicale. Tout ça, c'est vrai que ça a été dans des rencontres, et puis par le jazz aussi, beaucoup. Et puis l'ami d'enfance, et puis Jean Becker, le point commun qu'on a aussi, c'est qu'il adore jouer aux échecs, et on a pu tisser des liens entre le jazz et les échecs, et puis c'était ces très beaux films. Mais c'est vrai que c'est très valorisant, déjà, je pense, pour soi. C'est une très belle aventure, hein, aussi, c'est super. C'est comme rendre à la musique quelque chose. Parce que souvent, on prend beaucoup de la musique, hein, mais c'est une façon, la composition, c'est de dire, voilà, moi, ce que j'apporte à la musique, ma petite pierre ou mon petit... On parlait de style tout à l'heure, c'est ce qui nous définit un peu aussi. Hein. Mmh. C'est vrai qu'on voit dans la patte d'un compositeur qu'il était là à ce moment-là, ou ce qu'il aime.
Est-ce que tu joueras toujours en parallèle ces deux parties, c'est-à-dire les concerts et la musique de jazz en quartet, quintette et autres, et la musique de film?
Me spécialiser, non, parce que c'est vrai que le contact au public, c'est quand même énorme. Hein. Moi, je l'ai beaucoup fait de clubs. Et c'est vrai que le fait de jouer en live spontanément avec des musiciens, avec le public, ça, c'est quelque chose qui peut pas remplacer. L'un remplace pas l'autre, en fait. On a besoin aussi de se recueillir de temps en temps pour changer de répertoire, voir d'autres choses. Et là, c'est dans ces moments-là où on compose. Et puis, je pense que l'un permet de vivre aussi, quoi. C'est vrai que dans la musique de film, il y a des ouvertures et des... Notre musique peut aller plus loin. C'est-à-dire que moi, il y a des gens qui ont vu le film en Espagne, en Italie, qui ont entendu ma musique. Des fois, j'ai des emails de gens qui voudraient la partition de tel... Donc voilà, c'est... Alors que c'est vrai que quand on joue dans le club, c'est spontané, tac. Il y a ce côté vivant. Moi, je me sens un peu comme un acteur de théâtre, j'aime bien les deux, hein.
La plupart du temps, les musiciens de jazz, tous les musiciens de jazz y sont passés. Vous jouez très souvent dans des restaurants, que ce soit, par exemple, ici, on parle de Chez Papa, mais on a aussi Le Petit Journal et autres. Mmh. On a un public qui vient pour dîner. Mmh. Vous n'êtes pas gêné par moment par le bruit que peut faire le public pendant que vous jouez?
Ah oui, bien sûr. Je sais qu'à New York, par exemple, il y a un club où les gens dînaient, mais c'était vraiment pas devant les musiciens. Mais bien sûr, ça peut être gênant pour la concentration. Et puis, il y a certaines personnes qui prennent ça comme un manque de respect, disons-le direct. Hein. Mais bon, cette musique-là a tellement grandi dans des bordels ou dans des caves à jazz où ça dansait, où ça s'encanaillait... Voilà, ça fait aussi partie du destin de cette musique, je dirais.
Ouais, donc ça te gêne pas, toi?
Bah, je me suis habitué.
Tu prends autant de plaisir?
Je me suis habitué.
Par rapport à un concert?
Non, parce qu'il y a le côté alimentaire, justement. Dans un restaurant, il y a ce côté alimentaire, au propre comme au figuré, sans faire de jeu de mots. Mais on essaie des choses, et puis à un moment donné, c'est vrai que Moi, je m'en suis aperçu plein de fois. C'est « ventre affamé n'a point d'oreille », dit le proverbe. Oui. Et c'est vrai qu'on peut les attraper au dessert ou après, au digestif. Il y a un moment donné où la musique, les gens se tournent, disent « tiens, il y a des musiciens et c'est peut-être aussi à nous ». Ça nous forme beaucoup pour aller chercher le public aussi. Oui. Mais c'est plus compliqué. C'est vrai que c'est plus compliqué. C'est comme un joueur d'échecs qui jouerait dans une salle où tout le monde parle, alors que c'est quand même aussi... Mais l'un dans l'autre, on peut y trouver des compensations. Et puis c'est vrai que arriver à se concentrer pendant que les gens parlent, après on est blindé. Hein. Donc ça oui. peut être une école. Tout dépend comment on prend les choses aussi. Hein. C'est, moi j'ai évolué très vite là-dedans, parce que les Trois-Meuillets, déjà c'était un endroit où... Donc je crois que la démarche d'un musicien, elle doit être cohérente aussi. Quoi. C'est-à-dire que s'il accepte, il vient dans un restaurant ou dans un endroit où ça parle, il ne faut pas qu'il vienne jouer là. Mm-mm. Sauf s'il a vraiment besoin de ça pour vivre. Sinon, on peut pas dire « silence, je joue ». Quoi. Ou alors, il y a la salle Pleyel. Mais malheureusement, il y a beaucoup de musiciens de jazz et pas assez d'endroits. Et voilà. Contrit et forcin, certains le font. Mm-hmm. Encore.
Juste une dernière question. Quel effet ça fait quand on arrive à avoir ses premiers cachets de musiciens et quand on se dit « ça y est, je suis musicien professionnel ».
On se dit « pourvu que ça dure ».
Ouais.
En ce moment, non, mais on est content. Moi, je me souviens qu'au début, c'était une fierté, ouais. C'était une liberté, le monde de la nuit, apprendre des nouveaux morceaux. Et puis, quand on arrive à vivre de ce qu'on aime, c'est déjà pas si mal. C'est vrai. Après, quand on en vit mieux, voilà. L'idée, c'est toujours de continuer à en vivre et puis de faire des concerts, d'aller des rencontres. Et... C'est une ambition qui se réalise, oui, bien sûr. C'est fragile, fragile. Nougaro était un exemple formidable. Il disait, moi, j'ai passé ma vie à refaire mes débuts, tout le temps. Mm-hmm. Donc finalement, on arrive quelquefois là et paf. Mais c'est là où on est créatif aussi. Donc on ne peut pas faire ce métier de 20h à 23h. Il faut être corps et âme, je pense. Si j'avais un conseil à donner à des jeunes musiciens aujourd'hui, je disais, si vous voulez avoir un son, un style, 20 ans, et si vous voulez le faire, il faut le faire à 300%. Quoi. Mmh. Mais si c'est pour le faire à demi, c'est même pas la peine. C'est important. D'ailleurs, je le dis bien sur mon DVD. Il vaut mieux se perdre dans sa passion que celui qui a perdu sa passion. C'est saint Augustin qui disait ça.
Ça explique aussi cette espèce de fragilité qu'on ressent vis-à-vis des musiciens de jazz, malgré le sourire, cette espèce de grande gaieté... On sent toujours une grande fragilité chez eux.
Oui. Bah oui, parce que
d'où le fait aussi qu'ils sont toujours un peu portés sur, enfin même beaucoup portés sur l'alcool.
Bien sûr, mais c'est un monde excessif. Hein. Billie Holiday, elle a vécu 10 vies en une. C'est pour ça que elle avait l'air tellement fatiguée. Charlie Parker, quand on voit l'histoire du jazz, c'est vrai qu'il y a cette espèce de tout brûler par les deux bouts. Hein. Il y a une espèce de faim de jouer, de chanter, de Et souvent, la drogue est malheureusement accompagnée tout ça. C'est vrai que c'était très vite la descente aux enfers. Et en même temps, on dit que c'est des clichés. Bon, c'est vrai qu'on a vu le jazz au cinéma. Mais il y a cette fragilité, bien sûr, parce que finalement, pas de reconnaissance. Allez demander aux jazzmen ce que c'est que la reconnaissance. Charlie Parker, il est mort à 35 ans. Billie Holiday, elle est morte dans la misère. Freddie Green, Count Basie, Miles, il est bon, lui c'est un peu c'était un mythe, donc autre exemple, Fats Waller, il est mort dans un train, Nat King Cole, il est mort très jeune.
Même Boris Vian est mort à 37
ans. Ouais. Donc la reconnaissance, c'est un truc qui les jazzmen ils connaissent pas ça. Dès qu'ils jouent, même que ce soit un resto ou que ça parle, il y a ce côté un peu roots quand même, ouais, c'est vrai. Et en même temps, cette ambiguïté, justement, tu disais, cette joie, je pense que c'est là où ils sont, quand la musique est bonne, comme on dit, on se sent élevé. Et ça devient presque une drogue, parce que finalement, après, une fois que le swing était là et qu'il y a eu les émotions, quand on retombe, je pense qu'il y a la vie pour eux, en tout cas, avait un goût trop peu, je pense. Donc toujours aller chercher dans l'alcool ou les rencontres... Monk, Bud Powell, tous ces...
Bill Evans trouvait sa vie très terne à côté de...
Ah oui,
au piano. Ouais.
C'était terrible. Hein. Je crois que c'est le destin de cette musique aussi, je crois. Django Reinhardt, c'est pareil. Hein. Django Reinhardt, en plus, ça a été le seul musicien blanc, après tout ce qui s'est passé dans le jazz, qui a fait qu'il était pratiquement un des derniers génies vivants, finalement. Tous les Américains, ils disaient, mais Django Reinhardt, d'où il sort, comment il joue l'Euroclub de France, c'était une révolution. Hein. Moi, je dirais que vraiment, on est passé un petit peu à côté, finalement, de Django Reinhardt. On le redécouvre encore aujourd'hui, mais c'était un guitariste formidable, hein, que les Américains nous enviaient. Hein.
Quels sont les projets d'Ahmed Kulbe dans les mois prochains?
Alors, les Interceltiques au mois de juillet et début août.
Oui.
Voilà, avec ce nouveau trio que j'ai monté avec Laurent Sou qui est à la contrebasse et Jean-Yves Moka à la guitare. Et puis quelques chansons pour les prochains films de Lelouch. Et puis j'ai l'idée en ce moment de ramasser mes compositions pour enregistrer un nouvel album, soit en solo, soit en duo, soit en trio. Je ne sais pas encore.
De toute façon, donc, il va y avoir des prochains enregistrements.
Oui.
Ça arrive.
Oui, oui.
Ça se cogite en ce moment.
Je vais accoucher de quelque chose de nouveau.
Un nouveau style?
Oh, peut-être pas complètement différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais ça sera Ahmed plus.
Parce qu'il y a des compositions d'Ahmed, c'est un Ahmed très romantique.
Ouais, 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 c'est vrai. J'ai aussi ce côté-là, ouais. Ça doit être mon côté fragile, ça.
Très bien, Ahmed. Merci beaucoup d'être venu. C'était Ahmed Kulbe, pianiste de jazz. Tu joues où actuellement?
Bah écoute, prochainement, là, je vais jouer à Marseille avec les Frères Levent, le premier trio que j'ai monté.
Fabuleux, les Frères Levent.
Ouais, ouais, voilà. C'est le trio de choc, en fait. C'est deux frères jumeaux. En fait, on est un faux trio. On est un duo.
Ah ouais, ils sont extraordinaires, ouais. Effectivement. Bien, merci Ahmed. Moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.
Au revoir.
Bonne suite pour les prochains concerts.
Merci.
Ici, autre radio, autre culture. À bientôt. Autre radio, autre culture.